matinale d'Europe 1 avec Pierre de Villeneuve, avec Sonia Mabrouk et votre invité Manuel Wargon, secrétaire d'État à la transition écologique. Vous réagissez, vous posez vos questions avec le hashtag Radio Ouverte et au 3021.
Ouais, elles sont nombreuses les questions avec le hashtag Radio Ouverte. Olivier vous pose cette question, Emmanuel Wargon, comment le monde d'après pourra-t-il être différent du monde d'avant quand on voit l'intérêt de l'utilisation du plastique et de ses dérivés dans la lutte contre le Covid? Les gants plutôt, le plexiglas, les masques, comment est-ce qu'on peut... Voilà. Il y a le sanitaire d'un côté, l'écologie de l'autre.
Alors forcément, le sanitaire est une priorité en ce moment, mais déjà en ce moment, on peut avoir les bons gestes pour tous ces matériels de protection. C'est vrai qu'on voit beaucoup de masques qui sont jetés par terre. C'est l'un des combats de ma collègue Brune Poirson, de faire attention à ce que ça retourne bien dans les circuits de déchets, que ce soit bien traité. Après, progressivement, on pourra probablement imaginer des solutions qui sont un peu moins tout jetables. Et d'ailleurs, les masques, on voit aussi le succès des masques en tissu, qui sont des masques lavables, réutilisables et finalement beaucoup plus écologiques. Donc il faudra trouver de nouveau le bon point d'équilibre entre les outils de protection sanitaire qui ont été mis en place et dont on a besoin et leur recyclabilité, et ça on pourra l'inventer avec les industriels.
Il parle de plexiglas, Olivier, quand il y a par exemple une bâche dans un taxi pour protéger du chauffeur et du passager, est-ce que cette bâche à la fin on la jette parce qu'on considère qu'il y a une susceptibilité de Covid-19 ou est-ce qu'on la recycle?
Pour l'instant on la jette. Et on a besoin d'avoir des mesures de protection sanitaire. Progressivement, on aura peut-être aussi des technologies qui nous permettront de désinfecter tout ça dans de bonnes conditions et donc de pouvoir passer à du réutilisable.
Emmanuel Wargon, vous êtes secrétaire d'État en charge de la transition écologique et solidaire. Et justement, on va balancer entre cette urgence sanitaire et aussi l'aspect économique et social avec cette crise qui s'annonce. Beaucoup mettent en garde sur la fracture entre ceux qui angoissent pour leur fin de mois, et oui, ça revient, et ceux qui se préoccupent de la fin du monde. Est-ce que cette polarisation qui revient est potentiellement explosive? Est-ce que c'est un risque et une menace qui vous inquiète?
Ce qui m'inquiète, en tout cas dans la suite, c'est qu'on soit en capacité de bien protéger les plus fragiles. Ceux qui vont souffrir, les personnes en situation de pauvreté, les personnes qui vont perdre leur emploi. On sait que le chômage va augmenter. Et donc, effectivement, on sait que ça sera difficile pour ces personnes. On a déjà commencé à les aider avec plus d'aide alimentaire, avec des primes exceptionnelles. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas demander un engagement écologique si on ne prend pas en compte aussi la situation sociale. Sur l'alimentation, par exemple, tout le monde a envie de mieux manger. Mais c'est vrai aussi que le prix des produits peut être plus élevé pour le bio ou pour les produits de circuit court. C'est là probablement qu'il faut qu'on aide aussi pour rendre les produits de qualité alimentaire et agricole disponibles à des prix acceptables. Et que ça existe dans les marchés de producteurs.
Vous parlez de circuit court. Selon le sondeur Jérôme Fourquet, les milieux aisés pendant cette crise ont plus acheté dans les circuits courts et bio que vous vantez. Ils ont accru leur lecture écologique de la situation. Et l'autre France, qui n'a pas renoncé à ses habitudes, eh bien, on l'a vu faire la queue devant McDo, moqué d'ailleurs par d'autres sur les réseaux sociaux. La tension entre le pouvoir et le vouloir d'achat risque d'être très forte.
Et moi, je ne crois pas qu'il y a des Français qui veulent avoir accès à une vie de meilleure qualité, plus écologique, et d'autres qui ne veulent pas.
Qui n'ont pas le choix,
je dirais. Je pense que tout le monde a envie de manger des produits qui sont meilleurs pour la santé, dont on connaît la provenance, avec moins de pesticides, des produits pour lesquels on peut avoir confiance, avec des agriculteurs finalement de proximité. Je ne crois pas que ce soit une attente d'une élite, et ça ne peut pas, ça ne doit pas être réservé à une élite. Parce qu'il faut qu'on fasse très attention à lutter contre la fracture sociale dans la période qui vient. Et il y a des solutions, encore une fois, les marchés de producteurs, les producteurs, les agriculteurs qui peuvent venir vendre en direct. Ça existe dans les grandes villes, mais par exemple, on a signé un contrat de transition écologique en Corrèze avec le président du conseil départemental pour généraliser ces marchés de producteurs à l'échelle du département pour les habitants de la Corrèze. Donc, on a des solutions, pas que des solutions urbaines et pas que des solutions pour les Français les plus aisés.
Je vous rappelle le 39-21 si vous voulez poser vos questions à la secrétaire d'État à la transition écologique, Emmanuel Wargon. Justement, alors qu'on apprend à l'instant que EasyJet, la compagnie d'aviation britannique, qui annonce qu'elle veut reprendre certains vols à partir du 15 juin, essentiellement des vols intérieurs au Royaume-Uni et en France. Alors que justement, on s'est posé le questionnement des trajets en avion, toute une, il y a presque une philosophie, une pensée à travers travers ce confinement en disant peut-être qu'il faut plus prendre le train, la voiture plutôt que l'avion. Quand EasyJet, géant du low cost de l'aviation, pose ses conditions et dit le 15 juin, moi je vais reprendre en France, qu'est-ce que le gouvernement répond ?
La question, c'est comment est-ce qu'on équilibre nos différents comportements ? L'avion, ça restera une solution quand on veut faire des trajets longs de plusieurs milliers de kilomètres pour lesquels il n'y a pas d'alternative ou il n'y a pas d'alternative simple. La première question pour l'avion, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre l'avion pour aller à Bordeaux ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre l'avion pour aller à Lyon ? Est-ce qu'on a vraiment besoin de prendre l'avion même pour aller à Marseille ? Où là, des alternatives existent en train rapide, évidemment beaucoup moins polluante. Donc ce n'est pas l'aviation en général ou les compagnies aériennes en général, c'est la place de chacun des moyens de transport dans notre vie quotidienne.
Et la, place de l'aviation low cost, on disait au début du confinement, le trafic va changer, les mentalités vont changer, on ne va plus prendre un avion à 15 euros pour aller quelque part en Europe.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, je pense aussi qu'il y a une prise de conscience. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aller à 5000 ou 2000 ou 5000 kilomètres pour quelques jours ? Finalement, c'est aussi l'occasion de redécouvrir la France. On est la plus grande destination touristique du monde. On accueille 80 millions de touristes chaque année. Et finalement, les Français partent. C'est bien que les Français partent découvrir le monde, mais c'est bien aussi que les Français partent découvrir la France. Ce sera vraiment l'occasion cette année.
Donc c'est plutôt non à EasyJet. C'est ce que vous dites en ce moment.
Mais encore une fois, on n'est pas en train de donner des leçons.
Et en plus, c'est pas à vous d'arbitrer toute seule. On comprend bien. Emmanuel Wargon, vous restez en tout cas avec nous. 3921, c'est le numéro pour réagir, pour poser des questions à Emmanuel Wargon. Vous restez avec nous. À tout de suite.
À tous nos clients, entreprises et professionnels, BNP Paribas continue de se mobiliser pour vous. Parce que la reprise de votre activité est notre priorité, BNP Paribas Factor se charge du financement de vos factures en moins de 24 heures. Pour plus d'informations, prenez rendez-vous sur factor.bnpparibas ou parlez-en à votre chargé d'affaires. BNP Paribas, engagé à vos côtés. Offre soumise à conditions sous réserve d'éligibilité.
SNCF Info Voyageurs. Afin de limiter la circulation du Covid-19 et pour votre sécurité, SNCF prend les engagements en train, tous responsables. Vous pouvez compter sur nous pour nettoyer régulièrement les espaces publics en gare. Nous comptons sur vous pour appliquer systématiquement les gestes barrières. Retrouvez l'ensemble des mesures mises en place pour votre sécurité sur l'appli SNCF. SNCF, en train, tous responsables.
Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
Tu fais que c'est bio, mais des prix aberrants.
Des prix bas toute l'année, ça serait bien qu'on puisse tous manger bien et bio, quoi.
Chez Aldi, même pendant les semaines du bio, on ne fait pas de promo sur le bio. Et oui, nous, on préfère vous le proposer à prix bas toute l'année. Comme par exemple le poulet fermier bio Origine France au prix de 7,99€ le kilo.
Aldi, place aux nouveaux consommateurs.
La pièce d'environ 1,5 kg offre valable jusqu'au 15 juin dans la limite des stocks disponibles. Et pour continuer à vous protéger, des masques à prix coûtant sont disponibles par lot de 10 directement à la caisse.
Europe 1, il est 8h37. Vous continuez de poser vos questions à Emmanuel Wargon, secrétaire d'État à la transition écologique et solidaire. Vous appelez le 3921, vous écrivez avec le hashtag Radio Ouverte.
Et cette question par écrit de Stéphanie Emmanuel Wargon, est-ce que vous allez donner des aides aux entreprises qui font des efforts pour accélérer leur transition écologique ? C'est déjà le cas, non ?
Oui, on le fait déjà très largement. Sur l'énergie, par exemple, on aide la pose de panneaux solaires quand c'est plutôt des entreprises de bureaux sur les toits ou sur les centres commerciaux. On aide aussi les changements de sources d'énergie pour l'industrie. On aide à l'achat de véhicules verts. On aide aussi pour la rénovation des bâtiments. Donc, il y a déjà beaucoup de choses. Et bien sûr, on va continuer et peut-être même accélérer d'ailleurs.
Non, mais en vous écoutant, je me demande pourquoi des députés ont quitté votre majorité parce qu'ils estiment que vous avez oublié justement l'écologie.
Bah, d'une certaine manière, moi je me pose aussi cette question.
Et alors que...
parce que
plus à même que moi d'y répondre.
Oui, mais moi je suis pas complètement sûre de comprendre la logique au sens où c'est vraiment maintenant que le gouvernement, avec la majorité, va mettre le paquet sur l'intégration de l'écologique et du social dans le monde d'après. Alors, ils sont inquiets, c'est une interpellation politique. Après,
bah, ils se disent pourquoi ne pas l'avoir fait avant.
Mais d'abord, on l'a fait. Encore une fois, sur la rénovation, on a fait 1 million d'aides l'année dernière. Sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, excusez-moi, c'est un tout petit peu technique, mais en gros, c'est la feuille de route de la France sur sa production d'énergie pour les 15 prochaines années. C'est important. Elle a été publiée pendant la période. On dit qu'on multiplie par 5 les panneaux solaires, par deux, l'éolien, on baisse le nucléaire, on ferme les centrales à charbon. Donc on est en train de le faire. C'est un acte politique. C'est un acte politique avec des gens qui ne se ressemblent pas. Parce que entre une députée que je connais bien, Yolaine de Courson, avec laquelle on a beaucoup travaillé d'ailleurs en Côte d'Or, qui soutient le gouvernement et qui dit « moi je suis toujours à l'appui », Cédric Villani qui dit « je suis ni dans la majorité, ni dans l'opposition ».
C'est un ni-ni, mais quand même, ils ne sont plus à vos côtés.
En tout cas, il faudra quand même qu'ils choisissent. À un moment, il faudra savoir ce qu'ils votent. Et Delphine Bateau, dont je ne crois pas qu'elle ait jamais dit qu'elle soutiendrait le gouvernement, je pense que la ligne politique de ce groupe ne va pas être évidente à définir.
Une question de Sofiane. Renault va mal, l'État vole à son secours. Quelles sont les contreparties? Écologie au programme ou juste des licenciements dans les usines françaises?
Alors d'abord, notre priorité des priorités, c'est pas de licenciement, le moins de licenciement possible. C'est vraiment la préservation de l'emploi. On a besoin de préserver l'emploi. On sait que l'économie française pourra repartir. Tous les emplois qui sont préservés dans la période, c'est des personnes qui gardent leurs compétences et puis c'est protecteur. Après, on discute avec Renault sur des contreparties. C'est Bruno Le Maire et Elisabeth Borne qui le font avec Jean-Baptiste Djebbari. Elles ne sont pas encore totalement définies. Les annonces seront faites là dans quelques jours. Mais c'est la même logique qu'avec Air France. Contrepartie, comment on accélère les voitures électriques, les voitures hybrides, la réduction des émissions de CO2 des voitures. Donc c'est exactement la question sur la table.
Avec une remise sur la table d'une éventuelle prime à la conversion. Les auditeurs vous écoutent.
Alors, il existe déjà une prime à la conversion qui permet, lorsqu'on met au rebut une vieille voiture et qu'on achète une électrique ou une hybride ou une voiture très récente qui pollue moins, d'avoir une aide. Ça fait partie des aides sur lesquelles on travaille pour voir si on peut faire plus, plus fort, plus vite.
Oui, sur les électriques et sur les hybrides, mais pas forcément sur les thermiques.
Pour l'instant, la prime à la conversion, elle existe aussi sur les modèles les plus récents. Et voilà, on est en train d'y travailler.
Emmanuel Wargon, on rend quotidiennement hommage, c'est tout à fait normal, à nos soignants. Il ne faut pas oublier aussi nos agriculteurs qui sont restés en première ligne. Et la sécheresse, malheureusement, menace sur le territoire. Il y a un risque, justement, que ça s'ajoute à ce que nous subissons. Combien de départements classés à risque? Et est-ce que, véritablement, on peut avoir une sécheresse, malheureusement, qui va encore alourdir les difficultés de ce secteur?
Alors, suite à la sécheresse de l'année dernière, on a eu 88 départements l'année dernière qui ont eu des problèmes, 1 sur 100, c'est-à-dire presque toute la France. Moi, j'ai souhaité que le ministère se mette en état de mieux anticiper et du coup publie dès maintenant une carte des risques. C'est la première fois qu'on le fait. Normalement, on constate le nombre de départements qui sont en restriction et en tension.
Elle est déjà disponible sur
Nous
le site du ministère.
Nous l'avons publié il y a quelques jours sur le site du ministère. Donc par définition, c'est une anticipation. Donc forcément, quand c'est une prévision, les choses peuvent évoluer. Et on a une vingtaine de départements qui sont très à risque et une cinquantaine qui globalement sont à risque. C'est moins que l'année dernière et ça se concentre un peu plus dans la partie est du pays. Ceux qui sont le plus à risque sont dans le Massif central. C'est autour de l'Allier, de la Loire, de la Haute-Loire. C'est aussi le sud de l'Alsace et la Bourgogne-Franche-Comté. Et les risques viennent du fait que les nappes phréatiques, donc les grandes nappes d'eau, ne se sont pas totalement reconstituées, que les sols sont très secs et que la pluviométrie a été basse. Face à ça, il faut agir à court terme et à moyen terme.
Agriculteurs qui nous écoutent, qu'est-ce que vous leur dites?
Mobiliser tout le monde sur le terrain pour anticiper comment est-ce qu'on va partager l'eau cet été.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Emmanuel Wargon d'avoir répondu aux questions des auditeurs. Et merci à Sonia Mabrouk. On se retrouve bien sûr demain et tout à l'heure.